Vous allez écouter Parents Autrement, une émission réalisée en partenariat avec l'État, la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat-Venessin et la CAF de Vaucluse.
Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne d'RTVFM. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission Parents Autrement. Et notre sujet aujourd'hui, c'est faciliter le dialogue parents-enfants sur les questions de sexualité. Et pour aborder cette thématique, nous recevons aujourd'hui autour des micros d'RTVFM Marie Jacob, accueillante écoutante au sein de l'association Le Passage. Bonjour.
Bonjour.
Et aussi Jérémy Mort, coordinateur des projets, conseiller conjugal et familial ainsi que formateur au sein du planning familial de Vaucluse. Bonjour.
Bonjour à vous, bonjour aux éditeurs et aux auditrices.
Merci d'avoir accepté cette invitation et dans cette première partie d'émission, nous parlerons notamment de comment aborder les questions de relation à l'autre, de vie affective et de sexualité avec ses enfants. Puis en seconde partie, nous verrons que la dimension culturelle peut rendre difficile le dialogue à ce sujet. Et pour commencer, tout d'abord, est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter pour parler un petit peu de votre rôle au sein de vos structures respectives ? Peut-être tout d'abord Marie.
Oui, bonjour. Alors moi, je suis accueillante écoutante au sein du point accueil écoute jeune Le Passage de Carpentras. Accueillante écoutante, ça veut dire que j'accueille et que j'écoute les jeunes qui ont entre 10 et 25 ans et les parents dans un cadre qui est anonyme, confidentiel et gratuit.
Merci Marie. Et pour Monsieur Mort ?
Oui, donc moi, je suis coordinateur des actions, donc j'essaye de voir avec tous les partenaires du territoire pour pouvoir mettre en place des actions de prévention qu'on appelle EVRAS, éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Donc en ce qui concerne les établissements, le plus souvent établissements scolaires, mais vraiment divers établissements. Et donc pour le coup, on propose également des formations pour les professionnels qui souhaitent travailler ces questions-là auprès des jeunes ou des moins jeunes. Hein. Nous, c'est vraiment une vaste gamme au niveau de l'âge auprès desquels on peut intervenir sur ces sujets-là.
Et très bien, merci à tous les deux pour cette présentation. On va donc maintenant rentrer dans le vif du sujet avec cette première partie. Comment aborder les questions de relation à l'autre, de vie affective et de sexualité avec ses enfants ? Et la première question que je souhaiterais vous poser, c'est à partir de quand les enfants commencent à se poser des questions, hein, peut-être pas sur la sexualité directement, mais sur la découverte de leur corps. Est-ce que ça commence très tôt ?
Alors oui, ça commence très tôt. On sait que la curiosité des enfants dans leur développement, en fait, comprendre leur corps, le corps de l'autre, etc., ça commence très tôt dans la vie. In utero, il me semble.
Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et puis après, donc, ça commence à être évoqué. On voit déjà aux alentours des 2-3 ans des questionnements aussi sur la différence au niveau des corps, les sensations, découvrir tout ça, découvrir ses plaisirs, découvrir effectivement ce que ça nous fait quand on touche une partie ou une autre de son corps, sans forcément effectivement être focus sur les parties sexuelles. Mais en tout cas, il y a toujours cette notion de découverte de l'autre qui se fait effectivement dès le plus jeune âge. Ouais.
Et on sait que la découverte du corps, d'ailleurs, commence très tôt, c'est ce que vous êtes en train de dire, mais dès les premières années de vie, et comment est-ce qu'on explique à un enfant relativement jeune qu'on ne peut pas avoir certains comportements en public ? Comment l'exprimer ?
Alors, c'est vrai que en parlant de ce sujet-là, on se dit que aborder les sujets de sexualité, lui expliquer que c'est son intimité, etc., c'est comme toutes les autres règles sociales qu'on peut apprendre à un enfant. C'est pas très différent si on parle de sexualité ou d'anatomie ou quoi que ce soit, c'est-à-dire utiliser des mots simples de son âge pour lui dire que ça, c'est son intimité, que c'est des choses qu'on fait plutôt en privé, quand on est seul, dans certains endroits, etc. Mais pas différemment, en tout cas, il me semble, d'autres règles sociales, quelles qu'elles soient.
Jérémy, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose ?
Non, tout à fait, je suis entièrement d'accord. Hein. Il faut prendre ça en considération, au même titre que la propreté, la marche, la vie en communauté. C'est quelque chose de naturel, en fait. Si jamais on commence à mettre des tabous dès tout petit, ça devient plus compliqué par la suite de pouvoir justement communiquer sur ces sujets-là. Et ça nous semble totalement important de pouvoir, dès le plus jeune âge, commencer à travailler ces questions.
Et est-ce qu'il y a des mots précis que l'on peut aborder avec l'enfant pour lui dire ?
Alors ce qui est intéressant peut-être déjà, c'est d'utiliser des mots avec lesquels on est soi-même à l'aise. Et puis si éventuellement on ne sait pas trop, on peut questionner aussi l'enfant sur comment il appellerait telle partie. En tout cas, rester dans le dialogue et l'accompagner dans la découverte de son corps, de ce qui se passe. Mais en étant quand même, en utilisant des mots avec lesquels on est à l'aise soi-même. Mais en nommant les choses aussi, il n'est pas question d'éluder des choses ou de ne pas dire. Quoi, mais...
Tout à fait, des mots simples, accessibles, parler d'amour, de respect. Je pense que c'est essentiel, ouais, de trouver effectivement aussi un confort en tant que parent pour accompagner l'enfant dans ces sujets-là. Ouais.
On va en profiter pour écouter un interview et en savoir un petit peu plus, notamment le témoignage de deux jeunes. On l'écoute et on se retrouve juste après pour en parler.
Est-ce que tu peux parler facilement de sexualité avec tes parents ?
Alors oui, je peux en parler, mais je suis pas quelqu'un qui en parle beaucoup.
Avec tout le monde, pas seulement tes parents ?
Oui, en général, je suis pas quelqu'un qui en parle beaucoup.
Et du coup, si tu te poses des questions à ce sujet, où est-ce que tu vas les chercher ?
Bah, soit si j'ai une vraie question en tête, je peux demander à des potes, ou je regarde sur Internet.
Et est-ce que tes parents, ils ont déjà eu des discussions à ce sujet avec toi, à leur propre initiative ? Je sais pas, par rapport au préservatif ou ce genre de choses.
Oui, oui. Ouais, mon père qui me dit qu'il faut y penser, forcément.
Et ta mère, jamais ?
Non, ma mère, j'en ai... Oui, si, elle m'a déjà dit qu'il faut se protéger, forcément. Mais j'ai jamais trop parlé de ça avec elle.
Et est-ce qu'avec tes parents, t'as eu d'autres discussions que juste sur le fait de se protéger ? Sur la pornographie, par exemple, est-ce qu'ils t'en ont déjà parlé ?
Alors oui, par exemple, on me disait que... Enfin, mon père me disait que c'était mieux de regarder un film érotique qu'un film porno, parce qu'au moins, ça fait travailler l'imagination. J'imagine que c'est une meilleure porte d'entrée dans l'évolution de la vie, ce pas en avant, que de se prendre le porno directement en premier abord, quoi. Peut-être que c'est une meilleure approche.
Mais du coup, pour toi, la suite logique, c'est le porno ?
Bah, ou pas. Après, ça dépend de la demande de chacun.
Mais merci beaucoup pour tes réponses.
Eh bien, de rien.
Bonjour Marie.
Bonjour.
Alors, est-ce que toi, tu peux parler sexualité avec tes parents ?
C'est un peu compliqué. Enfin, je suis pas très à l'aise avec ça de base. Donc, ouais, en parler avec mes parents, c'est pas quelque chose que je fais assez naturellement, on va dire.
Et est-ce que tes parents ont d'eux-mêmes déjà abordé la question avec toi ou pas du tout ?
Non, ça va pas du tout, c'est pas le sujet qu'on parle à table chez moi. Donc ouais, non, c'est assez rare, voire jamais. Non. Si j'ai peut-être une question et que j'ai vraiment peur ou que je sais pas, j'irai peut-être trouver le courage de leur demander. Mais pour l'instant, non, c'est pas arrivé.
Du coup, là, t'en as jamais parlé avec tes parents ?
Non, jamais.
Et donc si vraiment t'as une question précise et que t'oses pas aller les voir, vers qui est-ce que tu peux te tourner ?
On dirait qu'en général, je me tourne vers mes amis parce que c'est un peu là où on se sent en sécurité et où on peut discuter de tout. Donc je dirais que je demanderai à mes copines. Et après, bah, chacune fera sa petite recherche, j'imagine. Et après, on en rediscute tout ensemble, on essaie de trouver des solutions ensemble.
Merci beaucoup, Marie.
Et voilà, vous venez de l'entendre sur l'antenne RTVFM, ces témoignages de jeunes, donc notamment l'interview de Guillaume qui aborde le sujet de la pornographie. Et est-ce que le fait que les jeunes aujourd'hui aient accès facilement à la pornographie constitue un danger pour la sexualité des ados ?
Alors, un danger en soi, il y a des risques comme pour toute chose, mais par contre, un danger en soi, pas forcément. Il y a quand même certains risques qui ont été mis en avant sur le fait notamment que des jeunes qui ont des téléphones portables ou des ordinateurs puissent avoir accès à de la pornographie sans l'avoir cherché. Donc ça, c'est un risque qui existe. On le voit dans nos interventions. Il y a des jeunes parfois de 11-12 ans qui ont eu, en fait, vu des images pornographiques sans le vouloir. Et là, ça peut être vraiment, vraiment problématique. Par contre, la pornographie en soi, il est normal pour un adolescent d'avoir une curiosité envers ces images-là. Après, le risque qu'il pourrait y avoir également, c'est... on sait que l'industrie de la pornographie, du cinéma pornographique, c'est quand même aussi beaucoup de stéréotypes véhiculés, beaucoup de visions de la sexualité. Alors, c'est quelque chose d'assez, comment dire, standardisé, on va dire, et qui ne donne pas forcément, par exemple, une bonne image des femmes, de comment on a un rapport sexuel respectueux, des choses comme ça. Donc ça peut potentiellement être des dangers. Après, l'idée... Pareil, c'est toujours quand même d'aborder ces sujets-là avec les jeunes. À partir du moment où on en parle, où ils sentent qu'ils peuvent en parler aussi, il y a pas de, il y aura moins de problèmes, en fait. Si on en parle, c'est quand même toujours mieux.
Guillaume dit à un moment donné qu'il vaut mieux peut-être regarder un film érotique qu'un film pornographique. C'est ce que le père lui conseille. Qu'est-ce que vous avez comme réponse ?
C'est un conseil rigolo, je ne sais pas. Je n'ai pas trop d'avis là-dessus.
Jérémy ?
Moi, je trouve effectivement que le témoignage qu'on a pu entendre, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on entend effectivement par la plupart des jeunes. Cette différence entre le film érotique et le film pornographique, c'est aussi toute une question. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je dis que ça ne remplacera pas un dialogue qui peut se faire quand même entre parents et enfants. C'est-à-dire que c'est pas par effectivement ces images-là qu'on apprend ce que peut être la sexualité, ce que peut être effectivement le rapport amoureux ou sexuel. C'est important de pouvoir déconstruire ça parce que dans la pornographie, comme l'a dit Marie, il y a tout un tas de normes qui sont véhiculées et qui ne sont pas la réalité. Hein. On reste quand même dans des productions cinématographiques, donc avec des effets spéciaux, avec effectivement du montage, avec tout tout un tas de choses qui font que quand effectivement un ado se retrouve le jour J effectivement en face de son ou sa partenaire, ça va probablement poser effectivement des questionnements, peut-être poser effectivement des situations de frustration, de violence, on ne sait jamais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qu'il faut déconstruire. On se rend compte aussi que à l'enfance, à l'adolescence, le cerveau n'est pas complètement développé. Toutes ces images effectivement qui sont absorbées par les jeunes, il n'y a pas suffisamment de prise de distance par rapport à tout ça. Alors je vais me permettre juste un petit exemple, mais souvent quand j'interviens auprès des jeunes, je leur fais toujours la différence entre Spider-Man et un film porno en fait. Spider-Man, on le déconseille au moins de 12 ans. Pourquoi ? Bah parce que effectivement, le gamin de 3, 6 ans va se mettre debout sur son canapé, va essayer de tisser des toiles, il va se jeter dans le vide et va se vautrer. Et en fait, je prends le même réflexe avec les films porno, c'est-à-dire qu'effectivement, un ado qui va vouloir reproduire ce qu'il voit dans les films porno va vouloir réaliser ça et en fait va se vautrer parce que c'est pas la sexualité en fait.
Et si on se rend compte justement que son ado regarde des films pornographiques, comment est-ce qu'on réagit ? Est-ce qu'on lui dit c'est pas bien, etc. Ou est-ce qu'on lui en parle ? Est-ce qu'on fait comme si de rien n'était ?
Alors faire comme si de rien n'était, ça me semble pas être une bonne stratégie. En parler, enfin proposer le dialogue, dire si on est au courant, le nommer, voilà. Encore une fois, porter un jugement en disant c'est pas bien, etc. Moi, ça me semble pas être non plus la bonne stratégie. Comme je disais tout à l'heure, c'est normal en fait d'avoir de la curiosité pour ces images-là à un moment donné. Ouvrir le dialogue, en fait, un peu comme disait Jérémy, enfin en parler simplement, sans porter de jugement de valeur, en disant c'est sale, c'est pas bien, parce que du coup, en fait, ça peut juste bloquer le dialogue, c'est-à-dire que du coup, ben le jeune, il ira plus parler à son parent et il va rester tout seul avec peut-être des choses qu'il a devant lui et où il se pose des questions et du coup c'est le laisser seul aussi quoi.
Oui, c'est ça. C'est toujours compliqué de parler de sexualité avec ses enfants parce qu'ils s'attendent le plus souvent à ce qu'on parle de notre sexualité ou de la leur, en fait. Il faut rester sur quelque chose d'assez global, de parler effectivement assez largement et pas forcément faire un focus que sur la sexualité, mais sur tout ce qu'il y a derrière. Dans les films porno, il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas d'attirance particulière au niveau affectif, en fait.
Il n'y a pas d'histoire avant.
Voilà, non. C'est ça. Donc, du coup, on est dans l'acte, on est dans quelque chose d'assez brutal, sauvage. C'est une partie, effectivement, qui peut se faire au niveau de la sexualité. Hein. Mais il y a tout un contexte qui doit se mettre en place, et je pense que c'est ça aussi qui va être important, parce que voilà, la question du consentement dans les films porno, on peut se poser cette question-là, quoi. Voilà.
Alors on va maintenant aborder un autre sujet, c'est la prévention des risques puisque c'est ce qui en découle. En février 2016, un sondage réalisé par l'IFOP pour SIDAction auprès de 1000 jeunes âgés de 15 à 24 ans montrait que seuls 53% des enquêtés déclaraient avoir utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport sexuel. 53%, mais si ce dernier rapport sexuel a eu lieu avec un partenaire non régulier, ce chiffre monte à 72%. Est-ce que c'est un chiffre qui vous alarme ? Qui vous inquiète ?
Alors qui moi
qui paraît normal ?
Ouais, je suis pas là, je sais pas trop en fait, je suis pas alarmée. Les chiffres, ça dit peu de choses en général. Si on parle de sexualité, parce qu'on me parlait de comment on dit qu'il faut se protéger, etc. Nous, au Point Écoute, par exemple, ce qu'on fait beaucoup, parce qu'on fait aussi du coup des séances collectives d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, c'est aussi parler du coup et renforcer en fait l'estime de soi, l'affirmation de soi. C'est-à-dire qu'un jeune qui se sent bien en confiance avec lui, qui arrive à faire confiance à quelqu'un, il va savoir à un moment donné peut-être dire ben moi je veux un préservatif et pas l'imposer dans le sens voilà, mais en tout cas je pense qu'il y a aussi beaucoup de situations où les jeunes n'osent pas dire non ou n'osent pas dire moi j'aimerais en mettre un en fait parce que c'est compliqué.
Moi je vais juste rebondir effectivement sur les chiffres parce que c'est je rejoins Marie hein, les chiffres on leur fait dire voilà ce
tout l'inverse
qu'on veut voilà, mais il s'avère quand même que sur un rapport de Santé publique France le chiffre était quand même de 85% sur l'utilisation du préservatif lors du premier rapport, et je pense que c'est ça qu'il faut essayer de cibler et de réfléchir sur le pourquoi en fait, c'est-à-dire que le plus souvent les jeunes utilisent une capote au premier rapport dès qu'ils rencontrent un partenaire, et puis le plus souvent c'est bon bah on fait un test de dépistage VIH, ok. Moi, mon résultat est négatif, le tien est négatif, et basta. Et en fait, on se rend compte qu'on a des IST qui sont en recrudescence. Je parle des chlamydies, je parle de la syphilis. Et en fait, on ne pense pas forcément à tout ça. Parce qu'au niveau de la com' qui peut se faire sur ces pathologies-là, il n'y a pas suffisamment, effectivement, de promotion. Donc, parler de ça, parler aussi, effectivement, de l'aspect contraceptif du préservatif. Et puis, peut-être aussi essayer de valoriser tout ce qui est préservatif interne ou dit féminin. Moi, je reçois des jeunes filles qui me disent « Bon, ben voilà, mon partenaire ne veut plus utiliser de préservatif, donc du coup on n'en utilise plus. Mais vous avez quand même la possibilité de pouvoir utiliser un autre préservatif et de dire, bah, moi, si j'ai envie de me protéger, je me protège. Toi, si tu veux arrêter la capote, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'utilise un préservatif interne. Voilà. Donc, rien que ça, faire de la promo sur le préservatif féminin, je pense que ce serait aussi une possibilité d'augmenter justement le pourcentage des personnes qui utilisent le préservatif, pour le coup.
Donc, pour vous, est-ce que vous constatez que les jeunes utilisent peu le préservatif ou pas du tout, alors ?
Oui, ils nous en parlent assez peu. Donc, je ne sais pas. Je ne saurais pas répondre à cette question-là.
Moi, je pense que c'est quand même utilisé au tout début de la sexualité, mais après, je veux dire, on fait un focus là sur les jeunes, mais on se rend compte qu'en tant qu'adulte, voilà, on est dans la même situation. C'est-à-dire que la capote, on peut l'utiliser au tout début et puis après, on l'oublie assez rapidement. Voilà. Donc, c'est vraiment avoir cette conscience-là de se dire, bon, ben voilà, c'est vrai qu'ils sont sensibilisés, ils sont nés dans cette sexualité et ce risque-là, parce qu'on les blinde, en fait, par rapport à l'information sur le risque. On ne parle pas de toutes les choses aussi qui amènent justement l'intérêt, l'envie liée à la sexualité. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est un truc qui peut être intéressant, c'est justement de développer aussi la prévention liée aussi autour du plaisir, du désir, de tout ça, plutôt que toujours faire le focus sur le risque, quoi.
Alors, comment est-ce qu'on peut faire comprendre que le préservatif ne devrait pas être une option ?
C'est ce que j'évoquais, c'est-à-dire que c'est de prendre ça dans une dimension plus globale, en fait, de se dire que, voilà, le préservatif permet effectivement de protéger contre le VIH, mais pas seulement, qu'il faut essayer aussi de tourner la chose comme ça peut être aussi un petit jeu de mettre le préservatif, voilà, ça peut faire partie des préliminaires, ça peut être quelque chose qui peut être sympa à avoir comme petit temps un peu intime entre son partenaire et soi. Enfin voilà, c'est pas forcément faire un focus que sur le risque, en fait. Maintenant, il existe une multitude de préservatifs phosphorescents avec des parfums, avec des sensations à effet retardant, etc. Voilà, ben on peut trouver aussi un petit kiff à utiliser des choses un peu différentes, quoi.
Et on va parler donc dépistage. Et est-ce que les jeunes ont assez recours justement au dépistage ? On en parlait juste avant.
Alors oui, ils ont effectivement recours. Vous avez plusieurs lieux qui permettent de pouvoir avoir accès à des dépistages confidentiels et gratuits. Il y a eu effectivement également une annonce du ministre de la Santé et des Solidarités, François Braun, le 20 septembre au quotidien 20 minutes, qui informait que maintenant, au niveau des dépistages, il serait gratuit et sans ordonnance pour les moins de 26 ans. Donc du coup, c'est aussi une preuve que le gouvernement essaye quand même de mettre en place des choses pour pouvoir y accéder de manière assez simple, puisque pour le coup, logiquement, on devrait pouvoir accéder à ce dépistage sans forcément passer par son médecin généraliste ou par un centre de santé, quoi qu'il soit. Donc ça, c'est une démarche de plus pour pouvoir ouvrir au dépistage. Mais je pense que voilà, le dépistage, effectivement, on le fait peut-être une fois. On est avec un partenaire, il y a la question de la confiance qui se met derrière, et voilà, c'est quelque chose à travailler, ça aussi. C'est pas parce qu'on fait un dépistage qu'on a été volage ou autre chose, mais c'est quelque chose qui devrait rentrer, on va dire, dans des habitudes, telles que peut-être aller faire son dépistage par un frottis tous les deux ans pour... Enfin voilà, c'est quelque chose qui devrait rentrer dans les normes, en fait.
On va maintenant parler de consentement et de respect. Et d'ailleurs, si on en vient à cette question du respect du consentement, j'imagine que c'est des sujets que vous travaillez dès la petite enfance, dans l'éducation notamment, enfin qui se travaillent en tout cas.
Oui, oui, ça se travaille dès le plus jeune âge. Encore une fois, je parle de compétences psychosociales. Je ne sais pas si c'est clair cette notion-là pour tout le monde, mais c'est vrai que dès le plus jeune âge, en développant la confiance en soi, le fait d'avoir des relations égalitaires, etc., on aborde forcément toutes ces questions de respect, de relation à soi, de relation à l'autre, et que du coup, effectivement, le respect et le consentement, c'est sous-tendu par tout ça. Après, on en parle quand même beaucoup plus de consentement aujourd'hui. Je pense que c'est important de faire de l'information aussi, de dire et répéter qu'on a le droit de changer d'avis à tout moment, que ça doit être respecté, etc. etc.
Mais... Et comment on explique justement qu'un non, c'est un non quand on dit on ne veut pas
Ben écoute, non, c'est non. Hein. Je ne sais pas, c'est non aussi. Il n'y a que le oui qui veut dire oui. En fait, tout le reste, on attend, on discute.
Discussion.
Mais... Ça va quand même au-delà de dire oui ou dire non. Enfin, une relation, même une rencontre, qu'elle soit amoureuse, sexuelle, intime, ça reste quand même un dialogue. Mmh. Enfin, c'est censé, dans un idéal, évidemment, hein, mais être quand même quelque chose où on discute, où voilà, on s'assure que tout le monde va bien, que tout le monde est OK, que voilà.
Alors, c'est vrai que la question du consentement, c'est quand même une question qui est importante. Moi, je renverrais peut-être effectivement les personnes qui écoutent cette émission à lire le dernier rapport de la HCE, qui est le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes, et qui évoque quand même qu'il y a un jeune sur quatre qui déclare avoir déjà eu des rapports sexuels non consentis, donc ce qui est quand même assez énorme. Sur cette question du oui et du non, il y a également l'enquête qui est consacrée par l'association Mémoire Traumatique et Victimologie, qui évoque qu'un quart des jeunes estiment que lorsqu'une femme dit non pour une relation sexuelle, cela veut dire oui. Donc à partir de ces chiffres-là qui sont quand même assez accablants, je suis entièrement d'accord avec Marie sur le fait de développer tout ce qui va être des compétences psychosociales, arriver effectivement pour un jeune à se positionner, à avoir les outils nécessaires pour dire que voilà, là effectivement mon nom il est posé et j'aimerais qu'il soit respecté parce que voilà, ça me renvoie à des choses, ça me fait violence, etc. Et de pouvoir justement leur permettre de se positionner voilà, clairement et que ce positionnement soit entendu par l'autre en fait. C'est ça aussi le travail qui reste à faire. Mais cette question du consentement, elle est vraiment importante de nos jours.
Non, je disais à ce sujet, juste je voulais rajouter qu'il y a un site qui est très bien fait qui s'appelle consentement.info si on se pose des questions sur ce qu'on vit, si c'est normal, pas normal, ou voilà, même en tant que professionnel ou en tant qu'adulte, pour se mettre au clair sur cette question du consentement, ce site-là, il est très bien fait, c'est consentement.info.
Tout à fait. Et je vais rajouter juste un petit point, pour celles et ceux qui sont familiers avec YouTube, il y a effectivement une très bonne vidéo, la vidéo où vous tapez consentement test de thé, et vous verrez, je trouve que c'est assez génial pour expliquer le consentement auprès des plus jeunes sur le fait de est-ce qu'on force quelqu'un à boire un thé.
Donc c'est très rigolo et ça, ouais, pour les enfants c'est sympa aussi.
Allez, pour les auditeurs qui nous rejoignent, je vous rappelle que vous êtes toujours dans l'émission Parents Autrement. Aujourd'hui, on parle notamment de faciliter le dialogue parents-enfants sur les questions en tout cas de sexualité. Et nous recevons donc au micro Marie Jacob, accueillante écoutante au sein de l'association Le Passage, et Jérémy Mort, coordinateur des projets, conseiller conjugal et familial, ainsi que formateur au sein du planning familial de Vaucluse. On va maintenant vous proposer d'écouter un interview de maman qui nous parle de la façon dont elles essayent d'aborder notamment le sujet de la sexualité avec leurs enfants. Et on se retrouve juste après. Et nous sommes aujourd'hui avec des mamans qui ont souhaité répondre à nos questions, notamment sur le sujet « Comment aborder la sexualité avec vos enfants ?». Tout d'abord, une des premières questions que je vais poser, c'est « Est-ce que vous avez déjà parlé de sexualité avec vos enfants ?».
Bonjour, moi je suis la maman des 4 filles. Il y a des grands, je commence à parler avec chaque fois, je raconte quelque chose. C'est pas directement, mais j'ai dit un petit peu de mots et j'expliquais, parce que chaque fois, elle pose comment elle fait les bébés, comme ça. Moi, j'expliquais, il faut qu'elle soit mariée avec une femme, avec un homme. Mais je rentre pas direct, j'expliquais pas directement. Mais au collège aussi, l'école aussi l'aide pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans la sexualité, comme ça.
C'est ça. À travers des cours, donc avec l'école, à travers des cours. Est-ce que vous préférez, vous, que ce soit l'école, finalement, qui fasse cette partie-là, apprendre la sexualité, ou que ce soit vous aussi?
L'école est l'aide, et moi, j'ai déjà parlé avec les deux un petit peu. Et l'école, l'aide plus pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé.
Et à partir de quel âge est-ce que vous avez commencé à en parler à vos enfants? Est-ce que vous vous rappelez?
Moi, j'ai déjà commencé à parler un petit peu à des ans, parce qu'il y a beaucoup de choses, parce que j'ai peur dans la rue, il y a beaucoup de choses, il passe de ces trucs, et j'expliquais pour qu'elle connaisse c'est quoi ça.
Est-ce que vous avez pris les devants du coup? Est-ce que c'est votre enfant qui a été le premier à vous en parler?
Non, c'est moi, parce que chaque fois dans la télé, elle regarde... Comme des films, il passe quelque chose, mais il faut que moi, c'est quoi ça? Chaque fois, je ne sais pas, bon, c'est tout. Chaque fois, il passe la publicité, il regarde, il se dit, c'est quoi ça? Ou, comme ça, moi, j'explique, qu'est-ce que ça... Mais il ne fait pas, il ne regarde pas. Moi, il faut que j'explique, c'est quoi ça?
D'accord. Vous pensez donc que c'est important de l'aborder avec vos enfants?
Oui, c'est important, oui. Parce que après, il va grandir, il ne connaît rien, mais il fait qu'on raconte pour qu'il connaisse la vie, c'est quoi la sexualité? Parce que s'il y a des filles, les garçons, il fait que connaît bien.
Merci. Et nous sommes maintenant avec une nouvelle maman qui a souhaité aborder ce sujet. Est-ce que vous avez déjà, vous aussi, parlé sexualité avec vos enfants?
Moi, j'ai parlé, mais j'envoie des messages, mais ce n'est pas parler en direct. Mais j'envoie des messages pour comprendre les choses. Mais je préfère parce que mes enfants, ils me parlent de collège parce qu'ils m'ont dit qu'ils viennent des professionnels pour parler de ça. Et je préfère, c'est pas je peux pas, mais je ne suis pas capable de le dire qu'est-ce qu'ils font. Prends qu'est-ce qu'ils font, par exemple, qu'est-ce qu'on faut faire. Mais au collège, elle m'a dit que c'est des gens qui parlent de la sexualité. Je préfère, mes enfants, c'est le prendre ça au collège.
Voilà, donc vous n'avez pas parlé de ça avec vos enfants avant le collège. C'est le collège qui a directement commencé à parler de ça avec vous, avec vos enfants.
Non, je parle, mais je parle. Je te dis que des messages, c'est pas direct de parler, mais j'ai dit des exemples pour ça. Et qu'est-ce qu'ils font faire? Est-ce que ça c'est bon ou non? C'est ce qui est bien ou c'est pas bien? Mes enfants, ils savent tout. Je sais qu'ils savent tout parce que au collège, ils savent tout.
Est-ce que c'est vous qui avez parlé de ce sujet en premier? Est-ce que c'est l'école?
Non, moi, c'est moi. Parce que je parle avec mes garçons, ils sont des 7 ans, 8 ans, comme ça. Mais au collège, ils sont des 2 ans, 13 ans. Moi, c'est la première que je parle avec mes garçons pour ça.
Et nous sommes maintenant avec une nouvelle maman. Par contre, à des enfants beaucoup plus jeunes, on souhaitait savoir comment est-ce que vous envisagez-vous de parler de sexualité avec votre enfant à partir de maintenant ou plus tard?
J'ai deux enfants, ma fille elle est 5 ans et mon fils il est 3 ans. Pour la vie sexuelle, il faut parler avec les enfants, même ils sont petits, encore petits. Par exemple, à l'école, je dis à ma fille, les câlins c'est interdit, les bisous, même les bisous. C'est comme ça, ces trucs comme ça.
Est-ce qu'il faut attendre, s'il faut, voilà, vous lui dites quoi exactement?
Ma fille?
Oui, ou est-ce que vous avez pour l'instant, vous avez parlé justement de sexualité avec vos enfants ou pas encore? Pas du tout?
Non, pas trop. Juste comme je l'ai dit maintenant, les câlins, les bisous, c'est interdit. Voilà.
Quand est-ce que vous envisagez de vraiment en parler? Est-ce que vous attendez que ce soit à l'école, un proche de votre famille, quelqu'un d'autre?
Même moi aussi, même moi, il faut parler avec eux. Mais à partir de 10 ans, à partir de maintenant, c'est... Voilà.
D'accord.
Ouais.
Très bien. Alors, si vous avez vos enfants, effectivement, qui venaient à vous poser des questions sur ce sujet, qu'est-ce que vous leur répondriez? Comment on fait des enfants, par exemple?
Oui, donc, pour avoir un bébé, il faut marier, c'est-à-dire une femme mariée avec un homme. Après avoir un bébé.
Vous ne rentrez pas plus dans les détails.
Voilà, c'est difficile.
Voilà, on vient de l'entendre, pas mal notamment de sujets abordés. Est-ce que vous souhaitiez réagir peut-être à quelque chose que vous venez d'entendre, notamment Marie, pourquoi pas?
Oui, je trouve intéressant, là, il me semble que c'est la première maman qui disait qu'elle regardait les publicités, qu'elle en parlait à cette occasion-là. C'est vrai que quand c'est un sujet difficile à aborder, on sait que ça dépend aussi du rapport qu'on a soi-même en tant que parent à son intimité, à la sexualité, ce qu'on a nous-mêmes parlé avec nos parents ou pas. Enfin, c'est, voilà. Et culturellement, dans toute culture, hein, il y a tout un tas de familles où on n'en parle juste pas. Donc, ça dépend vraiment de soi et de son rapport. Et je trouve intéressant que la maman puisse prendre un support comme ça en disant « ça passe à la télé, j'en profite, j'en parle du coup avec lui ». Parce que quand on n'est pas à l'aise pour aborder un sujet, c'est bien aussi de prendre un média, quoi, quelque chose. On parlait des livres aussi tout à l'heure avec Jérémy, de prendre des choses pour en parler. Et je trouvais intéressant cette maman, sa manière de s'y prendre.
Oui, complètement. C'est vrai que le fait de pouvoir se servir de la télé pour déconstruire des choses, je pense que ça paraît essentiel. Plutôt que de changer de chaîne et puis de faire comme si de rien n'était, c'est de vraiment prendre le temps de dire « bon ben voilà ce que t'as vu, qu'est-ce que t'en penses ?» Ça me fait penser aux pubs du CSA où on voit, je crois que c'est une nounou avec des enfants qui dit « tu trouves que c'est normal comme ça qu'il embrasse autant de filles, qu'il les tire par les cheveux, etc. » Enfin bref, voilà, c'est effectivement de réagir là-dessus. Après, voilà, sur les témoignages qu'on a pu entendre, il y a beaucoup de choses qui font réagir. Sur le coup de l'interdit aussi, il interdit de faire des bisous, des choses comme ça. Voilà, c'est vrai que c'est toujours cette réflexion de se dire, ben voilà, est-ce que ce qu'on met comme interdit, ça reste interdit? Est-ce que par la suite ça se passe pas, mais on le cache pour éviter que ça se sache? Et donc dans ce cas-là, qu'on se mette dans des situations qui peuvent être compliqué à gérer. Voilà, donc c'est toute cette question-là, la question du mariage. Enfin bref, il y a tout un tas de choses qui peuvent se questionner. Voilà, mais c'est intéressant, je trouve. C'est intéressant.
Alors on vient de l'entendre, donc certaines mamans n'abordent pas directement le sujet avec leurs enfants, elles préfèrent le laisser aux établissements scolaires. Est-ce que selon vous, les ateliers qu'il peut y avoir autour du thème de la sexualité dans les établissements scolaires est suffisant? À partir de quand ça commence justement?
Alors, je vais me permettre, Marie. Ouais. Du coup, moi, je vais rebondir quand même parce qu'il y a une loi qui régit justement cette question des interventions en milieu scolaire. Donc, c'est la loi du 4 juillet 2001 et qui normalement propose qu'il y ait 3 interventions donc par niveau de classe du CP jusqu'à la terminale. aujourd'hui, et notamment sur une enquête qui a été menée par nous toutes, sur, on va dire, logiquement les 21 séances obligatoires qu'il devrait y avoir, en moyenne, on peut certifier qu'il y a 3 interventions à peu près sur toute une scolarité, voilà, auprès effectivement des jeunes. Donc c'est vrai de se dire, bon ben voilà, au collège, on peut se dire que l'information a été faite, etc. C'est pas forcément vrai. Tous les collèges ne bénéficient pas d'interventions de prévention. Donc il faut effectivement garder ça en tête et de se dire que bon ben voilà, s'ils n'ont pas d'intervention au collège, si les parents n'en parlent pas, où est-ce qu'ils iront chercher l'information? Est-ce que ça sera sur internet et est-ce que ça sera effectivement sur des sites ou des lieux qui seront fiables en fait? Voilà.
On va rentrer maintenant dans le pratico-pratique, comme on dit. On a donc quelques questions à vous poser à ce sujet. Quel mot employer lorsqu'on parle à des enfants relativement jeunes et à des ados?
Quel que soit le stade du développement d'un enfant, il faut utiliser des mots. Alors après, c'est difficile, on n'a pas une grille voilà, avec des mots qu'il faudrait employer, pas employer. Encore une fois, bon,
L'essentiel, c'est d'en parler.
L'essentiel, c'est d'en parler, d'utiliser les mots quand même, de nommer les choses, c'est important, mais toujours en se respectant, c'est-à-dire en utilisant des mots avec lesquels on est à l'aise et en aussi questionnant l'enfant sur lui, quel mot il emploierait, etc. C'est intéressant. Il n'y a pas vraiment d'échelle. Après, c'est un peu au ressenti aussi, les stades de développement. On connaît son enfant et le langage qu'on utilise avec lui et de son âge en général, voilà, on intuite que ça va faire, ça va pas faire. Mais en tout cas, on peut nommer les choses à tout âge. Mais effectivement, on choisit le mot qui semble adapté au stade de développement de l'enfant, quoi. Après, c'est compliqué quand même. Ça reste quelque chose aussi d'un peu intuitif, un peu, puis ça se fait dans la relation avec son enfant. Hein.
On a déjà abordé aussi tout à l'heure, mais est-ce qu'il faut attendre que nos ados viennent finalement en parler d'eux-mêmes, ou en sachant que cela n'arrivera peut-être jamais d'ailleurs,
hein. Ouais. Je serais d'avis de dire que non, qu'on peut... moi, il me semble que l'idée, en fait, pour un parent, et surtout à l'adolescence, c'est de se rendre disponible, en fait, pour pouvoir en parler. C'est-à-dire que le jeune, il est compris que s'il veut en parler, il peut venir. Donc, se rendre disponible, ça veut dire évoquer des choses qui peuvent être vagues. Hein. On ne va pas entrer dans les détails, poser des questions, voilà.
Il ne faut pas être trop intrusif.
Non, et puis comme disait Jérémy tout à l'heure, il ne s'agit pas de parler de la sexualité de son enfant ou de sa sexualité, mais de parler de la sexualité en général, donc de parler de choses générales qui concernent la sexualité, les relations affectives, l'amour, le plaisir, toutes ces choses.
Et si on se place d'ailleurs du côté du jeune, comment est-ce qu'on fait pour aborder ce genre de thématique avec ses parents?
Alors, moi, les jeunes que je vois, je ne sais pas pour toi, Jérémy, mais en général, c'est compliqué pour eux. Hein. Mais bon, encore une fois, ça dépend toujours de la famille et de est-ce que ça a été parlé petit, pas peu, est-ce que c'est un sujet tabou, est-ce que ce n'est pas un sujet tabou. Donc, ils ont de la difficulté à parler de ça, ils peuvent être timides, etc. Dans ces cas-là, en général, nous, quand on les a en face de nous, c'est qu'ils viennent nous en parler à nous ou qu'ils ont trouvé d'autres ressources, en fait, pour en parler. Donc, le conseil, s'ils osent vraiment pas en parler, que c'est un sujet tabou à la maison ou alors qu'ils se le sentent pas du tout, c'est d'aller parler à quelqu'un d'autre de leur entourage, un autre adulte, c'est-à-dire quelqu'un de l'établissement scolaire, un professionnel d'établissement scolaire, au planning familial, dans les points écoute, dans les maisons des ados, des choses comme ça, quoi.
Oui, tout à fait, je suis entièrement d'accord avec toi. Je sais qu'il y a certains aussi parents qui ont des petites parades, qui peuvent laisser des petits prospectus, ouais, traîner un petit peu à gauche, à droite, laisser des préservatifs dans la pharmacie en disant, bon, voilà, je ne suis pas à comptabiliser le nombre qu'il y en a, mais voilà, sache que c'est là. Ou moi, il m'est même arrivé au niveau du planning que les parents amènent un peu leurs enfants en disant, bon, vous vous en occupez, hein, juste au moins qu'ils repèrent le lieu. Donc, c'est des temps qu'on prend, c'est des parents qui savent ou repèrent un peu leurs limites sur ces questions-là, mais qui se disent, bon ben voilà, je sais que dans cet endroit, voilà, il y aura quand même quelque chose qui va se créer, des réponses à des questions que moi je pourrais pas apporter parce que je me sens pas en tant que parent, parce que je le vois encore tout petit, tout bébé, etc. Et je veux pas encore...
Je vois pas grandir.
Voilà, c'est ça. Et je veux pas avoir ces idées-là dans la tête, donc voilà. Mais permettre effectivement aux enfants de pouvoir trouver l'information.
Mais en termes de parentalité, c'est vraiment ça, quoi, la disponibilité, et puis l'accompagnement vers les ressources, si on n'est pas à l'aise, les parents parfaits, ça n'existe pas, hein. Il y aura toujours des sujets qu'on a du mal à aborder, des choses qui sont plus compliquées pour nous, rapport à nous-mêmes, et puis à notre histoire, notre vécu, etc. Et du coup, l'accompagnement, c'est aussi, oui, accompagner vers quelqu'un d'autre, si nous, on ne se sent pas de parler de ça, hein.
Mais très bien, on va marquer une courte pause sur l'antenne d'RTVFM dans l'émission Parents Autrement et on se retrouvera pour la seconde partie de notre émission. Et donc on écoute tout de suite Big Flo et Oli avec leur titre Demain. À tout de suite sur l'antenne d'RTVFM.
Big Flo et Oli, tu connais, non? Petit biscuit.
tout le monde me dit, tu sais, pour ton avenir on a peur. On voudrait que tu sois un médecin, toi, tu veux être un rappeur. Ma meuf m'a dit, tu m'aimes pas assez, on dirait que tu t'es lassé. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as plus le même regard quand t'as fini de m'embrasser. Je m'endors avec mes coudes, blues, plus personne ne croit aux coups de foudre. La voisine est venue me voir pour me dire qu'elle en avait marre de mes engueulades avec ma mère. À chaque fois c'est pareil quand je m'énerve. Je tape dans la porte et je casse mes affaires, puis je m'endors et quand je me réveille je regrette. Ah, tout le monde me parle, tout le monde croit savoir ce que je dois faire de ma vie, ce qu'il y a dans ma tête. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses. Faut pas que t'y penses. Ne pense plus à rien, 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 rien. Ça y est, que demain. Ça y est, que demain. Ça y est, que demain. Demain, demain, demain. Il m'a dit, t'es comme les autres en fait. Tu m'apportes que des problèmes, allez sors de ma vie. De toute façon je le pensais pas, quand je te disais je t'aime. On nous répète qu'avant c'était mieux. On croit en l'amour qu'une semaine sur deux. Le temps passe vite, on est des jeunes vieux. Hier un petit m'a appelé monsieur. Par la fenêtre, j'attends un signe. Je pense à mon avenir qui doucement se dessine. En attendant je me remets ce vieux son de Biggie. Celui qui fait It was all a dream. Un seul sourire et mille pleurs. On attend la surprise comme les Kinder. Pour éviter de dire, les enfants, j'ai rencontré maman sur Tinder. Toutes les questions sans réponse se baladent dans ma tête. La main sur le cœur, des fois j'ai trop peur qu'ils s'arrêtent. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses. La nuit porte conseil. Faut pas que t'y penses. Ne pense plus à rien, 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 rien.
Et de retour sur l'antenne d'RTVFM pour la seconde partie de l'émission Parents Autrement. Avant ça, je vais rappeler les invités de notre émission. Tout d'abord, Marie Jacob, accueillante écoutante au sein de l'association Le Passage. Nous avons aussi à nos côtés Jérémy Mort, coordinateur des projets, conseiller conjugal et familial, ainsi que formateur au sein du planning familial de Vaucluse. Et nous allons donc maintenant aborder la dimension culturelle qui peut entrer en jeu lorsqu'on parle du tabou qu'il peut y avoir autour du dialogue sur les questions de sexualité entre les parents et les enfants. On l'a un petit peu abordé tout à l'heure. Mais pour ça, on va donc écouter l'interview de Fatna Adjali et on se retrouve juste après sur l'antenne d'RTVFM pour en parler.
Fatna Adjali, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes psychologue au sein du collectif Ariane et vous allez nous donner quelques conseils pour faciliter le dialogue parents-enfants sur les questions de sexualité. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter ce collectif Ariane ?
Alors, le collectif Ariane est une association à but non lucratif qui est implantée sur Carpentras depuis 2005. Elle a pris naissance, cette association, en région parisienne en 2001. Et moi, j'ai connu cette association dans les années, on va dire, 2006, où j'ai été sollicitée pour intervenir dans une approche ethnopsychologique de la consultation auprès de familles issues de l'immigration. Donc, on considérait tous, hein, les membres de l'association, que cette approche-là était intéressante puisque ça permettait aux familles issues de l'immigration d'avoir un espace où elles peuvent parler de leur système de pensée, de leur modèle dans un entretien où elles sont entendues, écoutées parfois dans leur langue d'origine, ce qui facilite aussi l'échange. Et puis depuis 2006, eh ben, je travaille dans le cadre de cette association. Donc c'est une association qui intervient de manière assez importante dans le soutien et l'accompagnement psychologique des enfants, adolescents, des parents, des populations aussi des quartiers défavorisés. Elle a un travail très soutenu aussi auprès de la parentalité et aussi de la petite enfance. Alors, au sujet de la parentalité, là, il y a des mises en place de groupes de parole sous forme d'ateliers réunissant des parents, majoritairement des mamans, bien sûr, où l'échange se fait par rapport à des thématiques qui sont déjà annoncées aux familles par affichage, par transmission, par les réseaux, etc. Et ces ateliers se passent dans les locaux du collectif Ariane où des psychologues, des intervenants extérieurs comme des psychanalystes, orthophonistes, éducateurs interviennent également pour faciliter la parole et l'échange entre les différents membres qui viennent nous rejoindre. Le collectif Ariane a développé une intervention très très importante dans les crèches, dans les accueils de la toute petite enfance, dans la HEP par exemple, les RAM, et les psychologues interviennent pour faire des APP, des analyses de pratiques professionnelles auprès des professionnels de l'accueil de la petite enfance pour leur permettre de réfléchir, d'analyser leurs pratiques et d'avoir de la hauteur. En fait, c'est un travail qui permet aux professionnels de libérer la parole par rapport à parfois à leurs questionnements, leurs doutes sur leurs pratiques, mais aussi d'interagir entre les différents membres et d'avancer sur leur savoir-faire, leur savoir aussi théorique parfois. Donc, ça permet aux membres d'analyser leurs pratiques par l'intermédiaire d'un médiateur qui est en général un psychologue. Et puis, il y a aussi cette, je reviens encore sur l'approche ethno-psychologique des consultations, qui est une dimension importante des interventions du collectif à Ariane dans Carpentras.
Donc parfois, la dimension culturelle dans les familles empêche le dialogue sur les questions de sexualité. Est-ce que justement, certains jeunes qui ne peuvent pas en parler chez eux viennent vous solliciter ?
Ils viennent nous solliciter pas tout à fait directement. Parce que la question de la sexualité n'est pas du tout une question qui est abordée de manière apaisée auprès des familles, parce que je vais vous dire quelque chose, peut-être que vous savez déjà, l'éducation sexuelle n'est pas quelque chose qui est pratiqué dans les familles, donc c'est un sujet tabou, il y a une omerta qui pèse sur cette question-là, qui est une question très très importante quand même dans le développement de l'enfant, de l'adolescent et le devenir de l'adulte, hein, dans sa vie sexuelle. Donc les jeunes viennent nous voir quand il y a vraiment des problématiques autour de cette question. Très souvent, ils sont amenés par les mamans, parce qu'il y a eu abus, parce qu'il y a eu viol ou attouchement concernant les tout-petits. Puis la question, elle est également abordée lorsque dans le cadre de la prise en charge ethnopsy, les adultes, toujours mamans, parce qu'on reçoit quelques papas, mais très souvent ce sont des mamans, qui viennent parce qu'elles rencontrent des difficultés dans leur santé mentale, psychologique, et qui, au bout de 10 à 15 séances, arrivent à parler de leur souffrance étant petites.
Oui, donc ça remonte.
Ça remonte. Elles ont du mal à en parler. Mais bon, justement, leur prise de parole progressive dénoue certains complexes autour de cette question. Et puis, elles arrivent à en parler, mais dans une approche de souffrance, parce qu'elles ont été abusées petites, par des proches. Parfois, vraiment des histoires chargées de beaucoup, beaucoup de souffrance, parce que ce sont très souvent les membres les plus proches de la famille qui sont les auteurs de ce genre de violence. Voilà, donc on aborde la sexualité par le biais des problématiques, des souffrances et des abus qui sont faits sur les enfants, les adolescents, et voilà.
Donc ils n'arrivent pas forcément avec des questions déjà un peu précises sur ce sujet ou...
Et non, ils n'arrivent pas, parce que nous, on ne rencontre pas vraiment des enfants ou des adolescents qui viennent vraiment consulter pour cela. C'est vraiment des questions de souffrance qu'on aborde la question. Et ça tombe sous le sens, parce que nous sommes psychologues, les gens qui viennent nous voir, ce ne sont pas les personnes qui vont bien, ce sont les personnes qui rencontrent vraiment des difficultés, et principalement quand il y a vraiment une souffrance. Donc la question de la sexualité est abordée justement en lien avec une souffrance importante. Bon, après ça nous renvoie à dire que c'est quand même une dimension importante du développement qui n'est pas du tout abordée, ni par les parents, ni par les enfants dans le cadre familial, parce que elle est abordée sous l'éducation répressive, le mode de l'interdit, de la honte, du péché, d'une sexualité vraiment interdite avant le mariage et qui ne peut être consommée qu'à partir du mariage. Et donc tout ce qui entoure, des précautions à prendre pour la virginité de la jeune fille, donc c'est complexe.
Et est-ce que vous, à votre niveau, vous arrivez peut-être à briser un petit peu ce tabou dans les familles au fil des séances, ou c'est quand même difficile?
Il nous arrive parfois, bon, je vais essayer de ne pas caricaturer, parce qu'il y a des nuances partout, hein. Il y a des situations diverses, hein, vécues selon le statut socio-professionnel, économique de chaque famille. Mais majoritairement, cette question est abordée dans le cadre des consultations hypnopsies. On arrive à créer avec... Parce que les consultations, en fait, j'ai omis de signaler que la consultation, elle est menée en binôme avec Caroline Cohen-Coudard, qui est psychologue également. Donc, on est toutes les deux en face du patient qui vient nous voir. Donc, il y a la double culture, parce que moi, je parle l'arabe, et donc le patient est en face, justement, de cette biculturalité qu'il vit au quotidien. Donc, quand ces personnes arrivent, elles vivent un espace, hein, de parole qui leur permet de dire ce qu'elles sont et de pouvoir, à travers les séances, de concevoir ce qu'elles peuvent mettre en place pour aider leurs enfants à faire face justement au modèle du pays dans lequel ils vivent. C'est un travail psychologique, mais c'est aussi un travail de construction de passerelle entre les parents et ce que les enfants auront à vivre. Et donc c'est à partir de là, c'est à partir de leur modèle de pensée qu'on part pour construire avec elles, avec les familles, quelque chose qu'ils peuvent transmettre à leurs enfants dans l'ici et maintenant.
Et alors justement, si vous deviez donner quelques conseils pour faciliter cet échange aux parents, qu'est-ce que vous pourriez leur dire?
Écoutez, moi souvent, j'aborde la question de l'affection, de la communication, de la prévention. Ils sont plus à l'écoute de ce genre de conseils plutôt que de la sexualité qui est tabou. Ils n'en parlent pas, donc il n'y a pas de sujet pour eux. Donc, quand on parle des relations entre fratries, du respect de soi, et quand ils parlent d'abus, on parle aussi de la prévention, du respect de son corps et comment aussi aborder cette question avec l'enfant. Donc, on essaie de dédramatiser le sujet en passant par des relations plus apaisées qui sont de l'ordre de l'affectif et de la communication, de l'échange. Là, elles sont beaucoup plus réceptives. Mais si on parle de la consommation sexuelle, du sexe en lui-même, du rapport à l'autre sexuel...
Ils ne sont pas réceptifs.
On a eu des cas, moi personnellement, j'ai eu des situations où les personnes ne sont pas revenues. Parce que je pense, enfin mon interprétation personnelle, c'est que lorsqu'on libère la parole autour du sexe, quelque part c'est interprété comme étant un champ ouvert à la consommation, au passage à l'acte. Alors alors qu'il est hors de question de passer à l'acte. Hein, c'est quand même quelque chose qui est réprimandé, sévèrement puni. Parfois, on arrive à quand même des extrêmes qui sont très, très douloureux.
Et alors, si on est justement dans ce cas-là où on ne se sent pas à l'aise pour parler de sexualité avec son enfant, vers qui est-ce qu'on peut se tourner ?
Moi, j'ai travaillé dans le cadre d'éducation nationale. Les familles ont beaucoup confiance lorsqu'ils rencontrent des assistantes sociales ou des infirmières. Donc, à l'école, moi, quand j'y ai travaillé, hein, je travaillais dans les collèges et les lycées, moi, je pouvais aider hein, les familles qui venaient parce qu'il y a eu abus, il y a eu attouchement, il y a eu aussi des déviances par rapport à la nudité exposée sur les réseaux sociaux. Enfin, les parents vivent très, très, très mal ça, bien sûr, ça peut se comprendre. Moi, je leur en parle et je les adresse aussi au personnel, hein, aux intervenants dans les établissements scolaires, qui sont notamment les infirmiers et les assistants sociaux, avec lesquels ils peuvent aborder ces questions-là.
Alors pourquoi, selon vous, c'est important de pouvoir aborder ces questions de sexualité chez soi et quels sont peut-être les sujets dont il faudrait absolument parler quand c'est possible ?
Il est important qu'on puisse quand même communiquer dans sa propre famille. Donc la communication, je pense qu'elle s'apprend là. Le respect de l'autre, le respect de soi, s'apprend aussi dans la famille. Et puis on apprend à avoir confiance en soi dans la famille, à être responsable aussi. On apprend à pouvoir se débarrasser de la culpabilité qui peut entourer justement le vécu de tout ce qu'on peut ressentir autour de la sexualité. Parce que les enfants qui ne peuvent pas en parler dans leur famille vivent une très très grande culpabilité lorsqu'ils sont confrontés à leur remaniement hein, physiologique, leur puberté, tout ce qui peut arriver et qui fait éruption dans leur vie. Donc, s'ils peuvent en parler dans la famille, ils ont moins de culpabilité par rapport à ça. Ils peuvent aussi, s'ils ont des aventures, être débarrassés de ce sentiment de trahison hein, par rapport aux parents qui attendent d'eux des comportements respectueux des normes culturelles, religieuses. Donc, lorsque des enfants, des adolescents sont amoureux, en général, ils se cachent, mais alors ils le vivent très très loin du regard de l'entourage familial et aussi du voisinage, parce que...
Ça parle
beaucoup. Donc, ils sont sous surveillance de partout. Ben, y en a qui arrivent à trouver par compromis un équilibre entre leur vie privée et aussi cette adaptation et cette réponse aux attentes hein, des familles. Et donc, mais c'est coûteux, hein, bien sûr, sur le plan psychologique. Mais d'autres n'y arrivent pas et sont exclus, font taire, en quelque sorte, leurs émotions et leurs ressentis par rapport à tout ça. Bon, il y a une diversité. Bien sûr, hein, de situations et de cas. Je dirais, bon, parler de ses sentiments, de son affection, de son ressenti dans la famille, c'est la meilleure école qui soit pour qu'on puisse être au courant de ce qui se passe en soi et avec l'autre. Ça me semble être important pour l'équilibre de l'enfant, de l'adolescent et du futur adulte.
Et merci. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose ?
Il y a quand même des choses qui bougent. Lorsque les mamans sont confrontées au désarroi de leurs enfants, elles arrivent quand même à se confier et à aborder la question selon les conseils qu'on peut leur apporter. Donc on arrive quand même sur certaines familles qui d'habitude sont hermétiquement fermées par rapport à cela, lorsqu'il s'agit d'aider leurs enfants, d'être à l'écoute de ce qu'on peut leur dire. Donc ça, c'est une ouverture qui est pas très grande, mais on espère qu'elle va
s'agrandir
pour faciliter le dialogue entre les enfants et leurs parents. Et puis, nous avons aussi les ateliers qui permettent aussi d'aborder l'affectivité, les relations entre les pères, les frères et sœurs. Et ça me semble être un espace de parole qui peut aussi assouplir la prise de parole et la communication autour de cette question, c'est important.
Et pour participer à ces ateliers, il faut consulter directement le collectif Ariane ?
Alors, il y a des affichages qui sont mis en place au niveau de toutes les structures, des centres sociaux par exemple, des crèches, puisque ça concerne aussi la petite enfance. Donc l'information, elle est diffusée. Les familles arrivent à quand même être informées. Après, bon, il n'y a pas forcément une démarche très volontaire, parce qu'il y a toujours des a priori, des difficultés à faire la démarche pour parler de soi. Mmh. C'est quand même quelque chose qui s'apprend, hein. Ça s'apprend. s'improvise pas et on est quand même très actif, très présent dans ce genre de travail.
Très bien, et eh bien merci beaucoup Fatna Adjali d'avoir participé à cette interview. Je rappelle que vous êtes psychologue au sein du collectif Ariane. Merci beaucoup.
Merci de m'avoir invité.
Beaucoup de choses abordées dans cette interview. Est-ce que peut-être vous souhaiteriez réagir ?
On se rend compte, mais au-delà de la dimension culturelle, hein, que de toute façon, si quelque chose est tabou, malheureusement, on ne pourra pas travailler dans la prévention, en fait. Je pense que c'est vraiment cette dimension-là qu'il faut mettre en exergue, c'est-à-dire que la prévention évite de tomber dans des situations de drame, comme ça a pu l'être évoqué au tout début, effectivement, de cette interview. Mais voilà, on n'est pas des pompiers, en fait. Il faut vraiment prendre ça en considération, que la prévention permet d'éviter ça, en fait. Mais que quand ça s'est arrivé, c'est très compliqué après de le gérer par la suite, quoi. Donc, la communication reste essentielle. On s'en rend compte, en fait, là-dedans. Et que dans n'importe quelle famille, dès qu'il y a un tabou au niveau de la sexualité, il n'empêche qu'effectivement, ça pourra entraîner des résultats dramatiques, quoi.
Et oui, on l'entend dans cette interview, Fatna Adjali qui essaye d'ouvrir la discussion sur la sexualité par le prisme de l'affection. Et est-ce que vous, dans votre métier, vous arrivez à en parler de manière un peu plus directe avec les jeunes que vous rencontrez ?
Ma foi, c'est toujours... Alors nous, au Point Écoute, quand on rencontre des jeunes en individuel, on s'adapte de toute façon à son rythme, à lui en fait. Donc il se peut que certains jeunes en parlent concrètement, clairement, des questions techniques, des fois, des choses comme ça, c'est possible. Mais après, certains parlent plus d'affectivité aussi. Ça dépend. Nous, on s'adapte vraiment aux jeunes, à sa temporalité. On ne va pas faire éruption avec des sujets qu'il n'aurait pas abordé lui ou qu'on ne sent pas être le sujet, en fait. Après, en collectif, parfois, on est peut-être un peu plus dans des choses techniques où on donne de l'information et où là, oui, du coup, on parle un peu plus... concrètement, de manière technique, je ne sais pas si c'est vraiment le mot, mais de sexualité, mais on parle de toute manière toujours aussi de plaisir, de respect, de relation, d'affectivité. On en parle ensemble, en fait. Voilà.
Oui, comme dit Marie, c'est effectivement une question d'adaptabilité, en fait. Hein. Tous les groupes sont différents, toutes les personnes aussi également. Il y a des fois, ça nécessite de travailler via une certaine légitimité. Hein. On l'a entendu aussi par le prisme du mariage, peut-être, effectivement. Et dans ce cas-là, évoquer, plus tard, vous imaginez avoir combien d'enfants. Et donc, dans ce cas-là, on découle après sur les questions de contraception. Et ça permet quand même d'aborder, on va dire, des questions essentielles, mais on va dire de manière un peu plus légitime, en fait. Là où, effectivement, les jeunes ou les parents souhaitent aller.
Marie, vous souhaitiez aussi rebondir sur des numéros à contacter en cas de violence, notamment.
Oui, parce que du coup, on parlait de... Bon, alors, le rôle de parent, de donner des outils aux enfants pour s'épanouir et se protéger aussi, de parler de santé sexuelle, etc. Il semblait important, si on parle de ces sujets-là, pour moi, de parler du 119, qui est un numéro assez global, où on peut téléphoner si on est inquiet pour un jeune. Et ça vaut aussi si on observe des comportements dangereux. Alors, ça peut être n'importe qui, hein, ça peut être un voisin, un professionnel, un parent. Voilà, il y aura toujours quelqu'un au bout du fil si donc on observe des comportements dangereux ou si on a connaissance de quelque chose de grave qui se serait passé, de violences sexuelles, d'agressions, de choses comme ça. Voilà, il me semble important de rappeler quand même que le 119 est là et qu'on peut aussi aller voir la police si jamais on a connaissance de quelque chose.
Et alors si malgré tous les bons conseils que vous venez de nous donner tout au long de cette émission, on ne se sent pas à l'aise pour aborder les questions de sexualité avec son enfant, vers qui on peut se tourner ?
Alors les professionnels de la jeunesse en général, il me semble, ça peut être les professionnels des établissements scolaires, ça peut être les points accueil écoute jeunes, donc chez nous, il y en a aussi à Avignon, Vaucluse, la maison des adolescents, le planning familial, ça reste quand même, voilà, et les centres de planification. Oui. Le centre de planification, il y en a un à Carpentras, oui. Le planning est à Avignon. Et puis après, on peut parler avec n'importe quel professionnel. Ça peut être des animateurs de centres sociaux. Voilà, je pensais à ça en entendant l'interview de Madame Adjali. Il y a les centres sociaux, par exemple, à Carpentras, qui sont dans tous les quartiers et qui, du coup, sont des personnes, des professionnels qui sont là pour toute demande, etc. Nous, on a déjà eu à travailler avec eux aussi sur ces questions-là, d'aller discuter avec des mamans, faire un genre de groupe de parole, si on peut dire. Donc ça peut être n'importe quel professionnel, en fait, à qui on peut s'adresser.
Et est-ce que vous avez des livres à conseiller aux parents pour aborder ce sujet, notamment ?
Des livres, oui, on arrive à en trouver pas mal. Ça, on peut effectivement commencer à travailler ça dès le plus jeune âge, aux alentours des 3-4 ans, avec notamment des livres adaptés pour travailler sur les notions de genre aussi, les appropriations effectivement de sexe, en disant, bon ben voilà, une fille, c'est pas forcément tout rose et à pleurer dans son coin et à être faible, et un garçon, c'est pas forcément le plus musclé, le plus hargneux et revanchard, mais voilà, à mettre déjà un tout petit peu d'égalité dès le début pour pouvoir après travailler toutes ces notions-là. Au niveau des parents, moi, je peux recommander peut-être le livre « Corps, amour et sexualité », donc les 100 questions que vos enfants vont se poser, qui est un guide voilà, pour pouvoir accompagner les enfants, pour pouvoir trouver les mots et le lire en même temps qu'eux, en fait, les accompagner, avoir vraiment une démarche proactive de la part des parents. Après, il y a d'autres bouquins, comme « Oser en parler » aussi, ou « Mon corps m'appartient » aussi, par Isabelle Filiosa et Margot Filiosa aussi. Donc, il y a quand même pas mal de lectures. Après, au niveau des podcasts, il y a un podcast qui s'appelle « Vlan !», point d'exclamation, le 196, donc parlons de l'éducation à la sexualité avec vos enfants, par Charline Vermont, et le podcast Yes Tess aussi, Y2S, TE2S, l'éducation à la sexualité positive, avec Tess maternelle dégenrée. Voilà.
Merci. En tout cas, notre émission parentrement touche à sa fin. Je rappelle le sujet de ce mois-ci, c'était faciliter le dialogue parent-enfant sur les questions de sexualité. Donc merci Marie Jacob, accueillante écoutante au sein de l'association Le Passage de Carpentras. Merci.
Merci à vous.
Merci aussi à Jérémy Mort, coordinateur des projets conseiller conjugal et familial ainsi que formateur. Merci.
Merci à vous.
Donc au sein du planning familial du Vaucluse, donc vous êtes venu sur notre plateau pour nous parler de ce dialogue parent-enfant sur les questions de sexualité. Merci également à Fatna Adjali pour son éclairage sur la dimension culturelle et aux jeunes pour leur témoignage. Et je rappelle que vous pourrez retrouver dès maintenant cette émission en podcast sur notre site rtvfm.net et sur nos réseaux sociaux. À très bientôt, merci et au revoir.
Vous venez d'écouter Parents Autrement, une émission réalisée en partenariat avec l'État, la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat-Venessin et la CAF de Vaucluse.